Bonjour à tous, bonjour Rémi. Bienvenue sur Radio B 90 FM pour notre chronique du passé.
Bonjour Martine, quel sujet abordons-nous aujourd'hui ?
Lundi, la France a célébré la Journée internationale des droits des femmes, à notre manière, et avec un léger décalage, évoquons la longue marche du féminisme jusqu'à l'obtention du droit de vote.
Nous dédions cette émission à toutes les femmes de Brest et d'ailleurs. Nous la terminerons par un épisode particulier, un peu oublié aujourd'hui. Celui de l'Union des femmes françaises, un mouvement né à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Avant de développer notre sujet, retrouvons quelques paroles de Jean Ferrat.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Voilà de belles paroles. La journée de la femme est plus que centenaire, Martine.
L'idée naît en août 1910, à la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague. L'idée en revient à l'allemande Clara Zetkin et elle est développée dès les années suivantes dans plusieurs pays. Le 8 mars sera institué un peu plus tard.
Des femmes ont déjà milité pour obtenir des droits.
Oui, nous pouvons remonter à la Révolution française et jusqu'à Olympe de Gouges, femme de lettres, journaliste, auteure d'une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle fait remarquer, puisque la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Opposée à la terreur, elle sera décapitée le 3 novembre 1793.
Il y a eu de l'espérance, rapidement étouffée. Puis le code civil de 1804, dit le code Napoléon.
Napoléon a fait rédiger d'excellentes règles, sauf pour les femmes. Elles sont renvoyées dans leur foyer, confinées dans leur vie domestique. L'article 213 dit clairement « La femme doit obéissance à son mari. La femme est privée de tout droit et ce code va peser très longtemps sur la société française. »
Avançons ensemble dans le temps. L'adjectif féministe apparaît sous la plume d'Alexandre Dumas, fils, en 1872. Diverses organisations féministes se créent à la fin du XIXe siècle.
À la belle époque, l'image de la femme est valorisée dans les arts. Des femmes s'imposent dans ce foisonnement intellectuel et artistique, et certaines réfléchissent à la condition féminine.
En 1897, à Paris, Marguerite Durand crée un quotidien, La Fronde, un journal exclusivement écrit et fabriqué par des femmes. On y retrouve une collaboratrice du département de l'Ain.
Oui, Odette Laguerre, l'épouse du député de Belley, Maxime Laguerre, avec lequel elle s'est mariée en 1884. Elle est professeure de l'enseignement secondaire des jeunes filles. C'est une militante. En 1905, elle publie un ouvrage, « Qu'est-ce que le féminisme ?» Notre collègue des chroniques de Bresse, André Abbiatessi, lui a consacré un article en 2003 que nous reprendrons sur notre site internet.
En 1903 et 1904, le Courrier de l'Ain publie les articles d'Odette Laguerre. Le féministe a aussi d'autres échos en Bresse.
Comme une conférence donnée à Laon, près de Bourg, par Marie-Louise Paturel, le 2 février 1912, sur le thème de l'émancipation de la femme dans une société basée sur les principes de 1789. Il y a sans doute d'autres réunions du même type.
Et d'autres initiatives.
En effet, en décembre 1913, le tout jeune hebdomadaire de gauche « L'Action de l'Ain » publie chaque semaine, ou presque, une tribune spécifique pour les femmes signée « Fémina ».
Les pacifistes tentent de s'opposer à la guerre, mais sans succès.
La guerre brise la solidarité internationale des féministes. Partout, l'urgence, c'est la victoire. Les féministes se rangent derrière l'unité nationale, le patriotisme. Les pacifistes sont pris ou prises pour des traites à la patrie.
Et l'après-guerre ?
C'est le chaos partout. Il faut reconstruire, réparer, consoler. Les victimes se regroupent en associations. Dans l'Ain, les veuves du canton de Pont-de-Vaux se prennent en charge seules au sein d'une association.
En France, divers courants encouragent la natalité.
Les premières médailles de la famille française sont remises en janvier 1919.
Certains pays accordent le droit de vote aux femmes, mais pas la France.
Les Françaises continuent la lutte. Une section de l'Union française pour le suffrage des femmes se crée dans l'Ain en juillet 1920, avec trois responsables de bourg.
Le droit de vote aux femmes est au cœur des débats.
Dans un contexte quand même particulier. À cause de tous les hommes morts à la guerre, les électrices seraient plus nombreuses que les électeurs. Et certains hommes politiques craignent le vote réactionnaire des femmes catholiques.
Le débat est porté au Parlement.
De mai 1919 à juillet 1936, l'Assemblée nationale se prononce à quatre reprises pour le vote des femmes. Mais les sénateurs le refusent ou font traîner les procédures. En juillet 1936, le Parlement vote à l'unanimité, mais le Sénat n'inscrit jamais le texte à son ordre du jour.
Nous pouvons décerner le pompon d'or à un sénateur de l'Ain.
Celui-ci, aubugiste Alexandre Bérard. Je cite son intervention du 3 octobre 1919. Les mains des femmes sont-elles faites pour le pugilat de l'arène publique? Plus que pour manier le bulletin de vote, les mains de femmes sont faites pour être baisées, séduire et être mère. C'est pour cela qu'est faite la femme. Le sénateur girondin Armand Calmel affirme, lui, en 1932, que le vote accordé aux femmes, ce serait l'aventure, le saut dans l'inconnu.
Une aventure que franchit le Front populaire en nommant trois sous-secrétaires d'État en 1936. Cécile Brunschwig à l'Éducation nationale, Irène Joliot-Curie à la recherche scientifique et Suzanne Lacor à la protection de l'enfance. Peu après, l'Europe sombre à nouveau dans la guerre. La France est défaite et confie son sort au maréchal Pétain.
Il adopte pour devise « travail, famille, patrie ». La femme est maintenue dans son rôle de mère et de femme au foyer.
Il fait pourtant entrer des femmes dans les conseils municipaux.
Par une loi, dès novembre 1940, pour les villes de plus de 2000 habitants, dont les maires sont désignées par le préfet, donc sous son contrôle. Elles y entrent comme ménagères et mamans. À Bourg, le rôle est confié à Madame Pélican, sage-femme de la maternité.
D'autres femmes choisissent la résistance.
Oh, même des toutes jeunes. Au début de 1941, comme des garçons de la Lande, de jeunes lycéennes de Bourg sont soupçonnées de résistance. Des femmes participent à la résistance et elles sont aussi des victimes des nazis. 23 femmes sur 641 fusillées dans l'Ain.
Les femmes françaises obtiennent le droit de vote en avril 1944. Elles votent pour la première fois pour les élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945. Certains pensent que ces élections sont bien tardives.
Cela est dû au contexte. Paris est libéré le 25 août 1944. Strasbourg seulement le 23 novembre 1944. La guerre n'est pas encore gagnée. L'offensive allemande de décembre 1944 dans les Ardennes le prouve. Ensuite, c'est l'hiver, les rationnements, la faim, le froid, les coupures d'électricité. Bon, alors autant attendre les jours meilleurs du printemps.
Comment votent les femmes?
Comme les hommes, massivement. Sauf peut-être dans certains villages. Cette participation surprend. À Bourg, on ferme les portes du bureau à 18h, mais les opérations de vote se poursuivent au-delà de 18h30. Aux élections législatives de novembre 1945, 33 femmes entrent à l'Assemblée constituante.
Les femmes sont devenues des citoyennes à part entière, sur le papier. Nous allons désormais nous intéresser à une organisation féminine, l'Union des femmes françaises née sous l'occupation.
Nous avons dit que des femmes avaient refusé la défaite et résisté, autant en zone occupée qu'en zone libre. Partout, des comités féminins se sont créés, souvent avec l'aide de militantes communistes. Elles avaient, elles, le sens de l'organisation clandestine.
Ensuite ?
Ensuite, le Parti communiste clandestin a toujours plus ou moins contrôlé ses comités. et à la libération du territoire, il les a fédérés en une seule structure, l'Union des femmes françaises. Une manière de regrouper des femmes pour en faire des sympathisantes sans agiter le drapeau rouge du communisme.
Et à Bourg-en-Bresse ?
Dès le jour de la libération, le 4 septembre 1944, l'Union des femmes françaises s'installe à Bourg, en bas de l'avenue Alsace-Lorraine, dans les locaux précédemment occupés par l'office de placement allemand. Le dimanche suivant, elle met des tables sur le trottoir pour recruter des adhérentes. La déléguée départementale est Madeleine Blanchard, arrivée à Bourg le 3 septembre 1944 de ou par Mâcon.
Qui est cette déléguée ?
Madeleine est née à Troyes en novembre 1906. Elle se marie à Lyon en juillet 1925 avec un employé de banque, Désiré Blanchard. Lui-même, venant de Lyon, arrive à Bourg le 4 septembre 1944. Il est membre du Front National. Attention, rien à voir avec l'actuel. Hein. Un parti politique d'obédience communiste.
Cela ressemble à des parachutages et à du noyautage.
C'est incontestable, car tous deux sont aussitôt membres du comité départemental de libération. Madeleine Blanchard œuvre pour le développement de son organisme. À son propos, en janvier 1945, les renseignements généraux écrivent, et là je cite, « Madame Blanchard a une activité de conférencière infatigable. Elle se fait remarquer par la fermeté de ses convictions et de ses discours dans les nombreuses réunions où elle prend part. »
L'Union des femmes françaises multiplie ses réunions où elle dénonce les faiblesses du ravitaillement ou les lenteurs de l'épuration.
Ouais. Elle est capable de susciter un vaste rassemblement de ménagères à Bourg le 22 mars 1945. Et si les femmes votent massivement en avril et mai 1945, c'est en partie par sa propagande. Au cours de l'année, toujours la même, 1945, les effectifs dans l'Ain passent de 1500 adhérentes à plus de 6000. Des sections se créent dans de multiples communes.
Pour quelles actions, Martine ?
Ces actions organisent des bals, des fêtes, au profit d'œuvres sociales. Elles participent à la croisade de l'air pur en faveur de l'enfance. Elles animent des centres d'accueil, comme à Saint-Étienne-du-Bois, où des repas sont servis. Je cite encore un rapport des renseignements généraux en juillet 1945. L'influence et la popularité de ce mouvement sont très grandes. Ses adhérentes se dépensent en effet sans compter pour soulager la misère des vieillards dans les hôpitaux et apporter un peu de réconfort aux militaires hospitalisés.
Et sa tendance politique ?
L'Union des femmes françaises se défend de faire de la politique, mais nul n'est dupe. Elle est très proche du Parti communiste et de ses structures parallèles. Madeleine Blanchard figure en troisième position sur la liste du Parti communiste pour les élections nationales.
Son action dure dans le temps et se maintient. Heureusement, la situation économique du pays s'améliore. L'aide sociale d'urgence est moins forte.
L'Union des femmes françaises poursuit ses actions solidaires, puis milite contre les guerres au Vietnam et en Algérie, et pour une meilleure reconnaissance des femmes dans la société. Dans les années 1950, l'Union des femmes françaises perd de son dynamisme dans l'Ain. Au niveau national, au début des années 1970, une nouvelle vague du féminisme apparaît et l'UFF devient femme solidaire.
Nous terminons en saluant Catherine Ravana, première déléguée départementale aux droits des femmes, qui est à l'origine de cette chronique.
Et nous remercions également le personnel des archives départementales pour sa disponibilité. Anne-Sophie Gomez de l'Université de Clermont-Auvergne et Claude Brichon des Chroniques de Bresse pour leur aide.
Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain sur Radio B 90 FM. Au revoir.
Au revoir à tous.
Être